justement, pour continuer un peu sur ce qu'apprennent les étudiants par première réponse, je me demandais si, parce que je pense que une des intentions de départ de la mise en place de ce programme, c'est de créer un sentiment d'appartenance, en tout cas européen, un sentiment de citoyenneté européenne, d'identité européenne, je ne sais pas. Et est-ce que ça, c'est ressorti, par exemple, dans l'entretien que tu as fait? Est-ce que, du coup, c'est une volonté de mobilité qui trouve un exutoire en Europe parce qu'il y a les bourses Erasmus? Ou est-ce que, s'il n'y avait pas eu ces bourses, il y aurait de toute façon une mobilité ailleurs? Et est-ce que du coup ça crée un lien particulier avec l'Europe, et du coup, avec le programme Erasmus Plus qui élargit Erasmus à quelques pays en bordure de l'Europe, est-ce que du coup ces mobilités elles se transforment avec, est-ce que c'est du coup dans ce que tu disais des pays importateurs exportateurs et que ces pays qui sont en bordure de l'Europe deviennent plutôt exportateurs et non importateurs. Est-ce qu'il y a, est-ce que l'Europe s'ouvre un peu à ces pays, je ne sais pas, la Tunisie qui fait partie de la France, des choses comme ça, ou pas, quoi. Est-ce que
oui, alors sur le sentiment d'appartenance, ça me fait revenir aux objectifs, en fait, l'intention. On peut discerner quand même trois périodes dans les politiques publiques européennes. La première, c'était quand même que le programme Erasmus, ça devait rendre les jeunes plus mobiles. Donc, c'était plus parce que disons que les politiques européennes ont commencé par s'intéresser à la formation professionnelle d'abord. Donc c'est par la formation professionnelle qu'ils sont arrivés à s'intéresser à l'enseignement supérieur et puis aujourd'hui aussi à ce qui est par les ressorts, puisqu'il y a le principe de subsidiarité, ils donnent quand même ils font des recommandations, etc. Et donc là, c'était vraiment rendre les personnes plus mobiles, plus adaptables, etc., etc. Donc c'était une conception un peu économique au départ, bien avant d'avoir été. Effectivement, ce que tu dis en second, il est ressorti en fait cet intérêt. On s'est dit, voilà, pour créer l'Europe, il faut créer des Européens, quoi, comme on peut dire l'Italie, on a créé l'Italie, maintenant on trouve des Italiens, quoi. Donc là, il y a vraiment cette idée-là derrière le programme Erasmus qui est arrivé en second quand même après cette question d'adaptation, un peu l'adéquationnisme entre le besoin dans certaines régions de main-d'œuvre, le surplus de main-d'œuvre dans d'autres régions, etc. Et aujourd'hui, il faut dire qu'on revient à une conception extrêmement économique, quoi. Je veux dire, si on lit les derniers textes de la Commission européenne, on voit bien que cette question adéquationniste, quoi, de rendre les personnes plus mobiles, etc., reprend en fait le dessus sur créer le sentiment européen. Alors bon, moi j'ai souvent des journalistes au téléphone qui me demandent mais comment ça se fait que les jeunes que les gens n'aiment pas l'Europe, puisque quand même Erasmus c'est un succès, c'est sa story, il y a la génération Erasmus, etc. Alors je dis, bon ben vous savez, l'Europe, enfin Erasmus, déjà un, ça touche jusqu'à avant Erasmus, que ça regroupe les autres dispositifs, disons, ça touche que des étudiants, donc tout le monde n'est pas étudiant, donc là on sélectionne, et puis en plus ça touche une minorité des étudiants. Donc, s'interroger sur pourquoi les Européens n'aiment pas l'Europe alors que c'est quelque chose un peu d'anachronique pour moi. Alors ce qu'on peut constater, et je ne suis pas là pour avoir étudié cette question, alors il y a De Federico à Toulouse qui a étudié la question des sentiments d'appartenance, des regroupements, elle, c'était la sociabilité, le regroupement c'est une partie de ce que j'ai moi observé, elle avait observé également sur justement ces regroupements par nationalité, sur cette sociabilité, les réseaux, parce que c'était les réseaux Erasmus, voilà. Et en fait, en fonction de, forcément, alors on peut penser que ça le discours c'est l'ouverture. La réalité elle est tout autre, elle est souvent, on n'a pas spécialement le sentiment d'être très français ou d'être italien quand on part à l'étranger. Et on part à l'étranger, puis d'un coup on se dit ah, qu'est-ce que je suis français, ou alors peut-être que je suis italien. Donc le résultat est un peu inverse à ce qu'on pourrait postuler au départ, c'est-à-dire que ça ouvre, en fait on s'aperçoit à la rencontre des cultures que même si on n'avait pas une tendance à se identifier comme étant très français, etc., on se rend compte qu'en fait, à l'étranger, en se confrontant avec d'autres nationalités, on avait quelque chose de très Frenchy, de très anglais, etc. Alors, le discours autour de l'alimentation est très intéressant, quoi. Ça, c'est comme le système d'enseignement dans les pays. On considère toujours que c'est dans son pays. Même les Anglais considèrent que c'est chez eux qu'on mange mieux. Hein. Donc, il faut savoir, quoi. Donc, les Italiens n'en parlent même pas, parce qu'ils sont hyper fiers de leur... Donc, il y a quand même au retour, en fait, on sent bien que le sentiment d'appartenir à une culture, etc., il ne s'efface pas du tout en ayant été en Erasmus. Mais d'ailleurs, les élites de la mondialisation telles qu'elles ont été étudiées par Anne-Catherine Manon montrent bien qu'en fait, c'est l'accumulation de dispositions, mais c'est l'accumulation de cultures, de langues, etc., qui font la caractéristique. Et par exemple, nous, on demande... Moi, je vois les études de l'INET qui demandent, pour un des critères de l'intégration des personnes, c'est d'avoir abandonné sa langue d'origine. On ne pose jamais la question à l'élite de la mondialisation, aux expats. Les milieurocrates, c'est très très clair. Je veux dire, le maintien de la langue... elle avait étudié les écoles américaines, les Américains à Paris, etc. Ils maintiennent leur langue, ils envoient leurs enfants dans des écoles... américaine, etc., etc. Donc en fait, c'est plutôt le cumul en fait de plusieurs langues, mais c'est pas l'abandon, on va dire, de ces spécificités nationales ou régionales. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant. Là, je pense qu'il y a un biais important parce que j'ai étudié des Italiens du Piémont, des Provençaux, donc de Marseille. Donc c'est quand même un peu différent. Alors en connaissant les histoires des pays. Les Italiens étaient beaucoup plus fiers d'être Italiens que les Français, alors qu'on a tendance à penser que les Français sont très fiers d'être Français. Et en fait, à Marseille, il y avait ces étudiants que j'étudiais ici, il y avait quand même l'identité régionale. Je suis du Sud, je suis méditerranéen, je me sens latin, etc., qui était très fort, parce qu'on ne trouvait pas, par exemple, en Italie, où là, l'italien était... Mais c'était pourquoi je dis en Italie, parce qu'en fait, c'était à Turin, donc je pense qu'on aurait trouvé aussi des choses différentes si j'avais été dans d'autres parties, d'autres régions d'Italie, quoi. Donc c'est vraiment assez différent, en fait, suivant les lieux, quoi. Et c'est surtout la multiplication, c'est pas du tout exclusif, quoi. On peut se sentir français, provençal, et alors sans oublier, ça c'est un truc qu'il faut que je précise aussi, donc quand je parlais de passé migratoire riche, oui, séjour linguistique, etc., mais il y a aussi des enfants issus de l'immigration, là ça en Angleterre et en France, c'était assez important, des gens qui d'origine étaient italiennes, espagnoles ou d'autres, et qui retournaient finalement dans le pays de leurs origines. Et donc là, c'est toujours aussi quelque chose d'intéressant à observer en termes de sentiment d'appartenance, et ça peut être très différent par rapport à quelqu'un qui, de 4 ou 5 générations, est resté en France. Voilà, donc c'est assez... Alors après Erasmus Mundus, il existait aussi avant Erasmus Plus, sauf que ça s'appelait... Enfin, disons que c'était pas intégré de la même façon au sein d'un dispositif unique. Ça, je pense que ma collègue peut en dire plus que moi, qui a étudié sur le Maghreb.
Avec un groupe de collègues étrangers, marocains, tunisiens, algériens, aussi français... Il y a quelques années, on a regardé la mobilité des étudiants au sud. Et ça a permis, comme tu l'as fait toi, à faire le retour à un certain nombre d'idées au sud. Notamment le fait que ces pays étaient forcément dominés, forcément pris par ce système venu du Nord, contraignant, dominateur. Forcément, utilitariste pour ces pays-là. Donc il a fallu, les études de ces collègues-là ont montré que finalement ça ne se passait pas d'une manière aussi mécanique, qu'il y avait certes le transfert, y compris des réformes européennes, bien entendu, de type Adam D, par exemple, mais toujours adapté au système national, éducatif du pays. Et que ces réformes-là qui sont venues du Nord, elles étaient récupérées, y compris dans des enjeux, hein, on parlait d'excellence, dans des enjeux de lutte, y compris dans des enjeux de lutte, donc national, voire régional au niveau de l'Afrique. Donc voilà, ça permet de prendre un petit peu de plat. Autre idée reçue aussi qui a été un petit peu tendue, l'idée que la mobilité du Sud, en tout cas Sud-Sud, elle est forcément un choix par défaut. On reste dans le Sud parce qu'on ne peut pas aller dans le Nord. Or, ces études ont pu montrer vraiment des mobilités ascendantes, voire d'excellence, dans ces pays-là, hein, en l'occurrence que je m'appelle, mais en Afrique aussi plus largement, puisqu'il y avait des collègues qui travaillaient sur le Sénégal et le Niger. Parce que plusieurs choses, parce que d'abord ces mobilités-là, elles existent depuis très très longtemps, organisées ou non organisées. Ensuite, qualitativement et quantitativement, elles ont énormément évolué depuis 20 ans, ces mobilités sud-sud, parce que, alors on n'a pas le système Erasmus, mais il y a quand même des systèmes de dispositifs de mobilité interrégionale qui existent dans ces pays, dans cette région de l'Afrique. Ensuite, les contrats doctoraux des gouvernements ont aussi augmenté, permettant à une certaine classe moyenne de bouger, alors que jusque-là, elle bougeait peu. Ce que tu as soulevé, on le retrouve aussi dans les pays du Sud, c'est-à-dire aussi l'émergence d'une classe moyenne qui va s'endetter pour que ses enfants puissent aller étudier dans un autre pays du Sud. Et dans des établissements situés publics ou privés de l'enseignement supérieur. Que ces enseignements supérieurs publics ou privés soient nationaux ou internationaux parce que délocalisés dans ces pays. Donc une transformation hein, qui a dépassé la frontière de l'Europe et de l'Europe du Sud. Et on peut parler d'une certaine manière d'une régionalisation euro-méditerranéenne de ce point de vue-là. Et en même temps, une circulation sud-sud avec du placement par l'euro. Hein, c'est voilà, quelques éléments de réponse que je voulais apporter pour passer la Méditerranée, disons. Moi, j'avais une question, Magali, puisque. Pardon, je voulais poursuivre. Voilà, une question. C'était au sujet du lien là, que tu as évoqué entre mobilité internationale et réussite des parcours et des trajectoires sociales. Et tu as démontré que ce n'était pas un lien mécanique. Je connais tes travaux, bien entendu, et je sais que tu n'en as pas beaucoup parlé, mais ces trajectoires déçues, ces trajectoires descendantes de ces étudiants en Erasmus, que tu as aussi souligné par ailleurs. Peut-être revenir un peu sur ce lien-là qui est pas forcément mécanique, mais qui peut justement entraîner des trajectoires de non-réussite.
Alors, bon, moi, plutôt que trajectoire descendante, je dirais plutôt une précarité, c'est-à-dire de rester pendant longtemps dans un espèce d'entre-deux. Que j'ai étudié aussi la question de la mobilité et l'influence que ça a aussi sur la vie privée, on va dire, parce que quand on se déplace souvent, donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont très enthousiastes, donc quand ils reviennent, ils sont diplômés, puis ils repartent, premier emploi peut-être à l'étranger ou pas d'ailleurs, mais et changement et de, enfin, d'autres mobilités, parce que la mobilité, on a un peu la mobilité quelque part, mais ça c'est peut-être un apprentissage. C'est un intérêt bien compris de la Commission européenne, finalement. Des personnes qui, au bout d'un certain... C'est pour ça que là, c'est une enquête beaucoup plus qualitative. Au bout d'un certain nombre d'années de changement de lieu, de changement d'emploi, sont beaucoup moins enthousiastes par rapport à leur parcours de mobilité, justement, parce que la mobilité devient un peu précarité, finalement. C'est des étudiants qui peuvent avoir diplômé Erasmus, disons, plus que les étudiants, puisqu'ils sont diplômés en général, qui peuvent avoir du mal à s'insérer durablement dans une profession, ou qui, par l'éloignement, comme je le disais, des centres décisionnels, etc., mais certains qui n'arrivent plus finalement à s'intégrer dans le métier, dans le pays, et qui souhaitent souvent rentrer dans leur pays d'origine et qui sont un peu contraints à la mobilité, à rester dans les pays étrangers. Il y a cette... On présente souvent, si vous voulez, la mobilité qualifiée comme une mobilité choisie, une mobilité heureuse, et la mobilité dans les, disons, en col bleu, pour faire très court, entre guillemets, comme une mobilité souvent contrainte. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des mobilités qui sont aussi contraintes. C'est l'objet de ce numéro spécial de revue avec mes collègues qui étaient à l'UCL à l'époque. Et de montrer qu'il y avait aussi une mobilité contrainte dans les métiers du savoir et une insatisfaction qui était liée moins en fait à des conditions de travail, parce qu'on partait souvent justement pour avoir une meilleure condition de travail, avoir un travail, ne pas se retrouver au chômage, etc., mais qui était liée aussi avec les problèmes que ça pouvait engendrer dans la vie privée, c'est-à-dire la possibilité de se stabiliser, la possibilité peut-être de faire une famille. Et là, il y a beaucoup d'inégalités qui ressortent, arrivé à un moment donné, entre les hommes et les femmes, avec toujours cette idée en fait, c'est beaucoup plus fréquent que la femme suive, et que les femmes étaient souvent des femmes qui bougeaient beaucoup, célibataires ou avec des vies personnelles très plus chaotiques, et disons, les hommes étaient plus avec des femmes qui suivaient. Ça, c'était encore assez fréquent, et assez fréquent d'ailleurs, je trouvais que là aussi c'était pas mal conformiste, justement, de voir en fait comment dans les couples que j'avais, ça c'était à Bruxelles notamment, que j'avais interrogé les couples qui sont en mobilité, qui suit qui, etc., comment on va considérer, quel choix on va faire en fonction de la carrière de l'un qui va renoncer à sa carrière, etc. Et là encore, on voit quand même que majoritairement, ce sont les femmes qui vont renoncer à suivre, etc. Ou alors, il y a souvent rupture dans certains couples parce que la femme ne souhaite pas bouger encore, etc. Donc là, il y a des insatisfactions qui ressortent et qui sont plutôt liées d'ailleurs au problème qu'engendre la mobilité sur le parcours hors profession, quoi, vie privée, disons, plutôt que familiale. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu dans les parcours des diplômés Erasmus, comme dans les stagiaires et les intérimaires de la Commission européenne, avec évidemment des différences de confort, parce que c'est une précarité qui par exemple, la Commission européenne, on pourrait me dire, oui, mais c'est vraiment une précarité confortable, qui est vrai. C'est-à-dire parce que c'est une précarité, je pense... aux agents contractuels de la Commission européenne, ils sont quand même très bien payés, enfin, par rapport, on va dire, au salaire médian belge. Et c'est une précarité, disons, une impossibilité de se stabiliser peut-être quelque part, mais dans un confort que c'était pas là non plus la précarité que peuvent avoir certains travailleurs non diplômés qui sont sur le marché du travail, agences d'intérim quelques jours, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on s'interroge quand même un peu moins que sur la précarisation des parcours dans des métiers qui sont avec des personnes qui sont moins qualifiées.
Une question profonde, j'ai juste une étudiante étrangère, tunisienne. Je viens en France dans le cadre d'un programme d'échange. Mais c'est aussi Erasmus.
C'est Mondus, c'est ça?
C'est Erasmus, oui, Erasmus
Mondus.
Erasmus Mondus, c'est sur la question d'échange.
Oui,
mobilité internationale du pays.
Oui.
Donc, toujours la question qui se pose, suis-je un Erasmus vraiment? Parce que je ne suis pas européen. Selon lui, parlons de la précarité. Satisfaction et insatisfaction. Donc, en premier lieu, je veux parler d'un exotisme académique pour moi. En France, c'est développé, sociologiquement parlant, c'est pas comme chez nous. On a des références toujours pour les groupes francophones, mais il y a Bourdieu, Dolcaël, quand on vient ici pour découvrir. Au début, c'est le choc culturel et c'est l'exotisme pour moi. Et après, il y a du problème au niveau financier. Ça, c'est sûr. Bon. Parce que, pour les racontes, vous savez, il y a la bourse au début et la bourse.
Donnée après, une fois au retour.
Le problème financier, ça va. C'est une contrainte par rapport aux autres étudiants européens. À la cité universitaire, il y a des étudiants anglais, allemands, espagnols. Ils n'ont pas les mêmes enjeux que nous. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Aussi, moi, j'étais bien intégré au niveau subjectif, mais au niveau objectif, c'est pas pareil. Moi, je vais rentrer, je vais revenir à mon pays, je vais rentrer, j'ai d'autres enjeux à finir ma thèse, à trouver à s'intégrer au milieu universitaire, des lieux dans le champ universitaire en Tunisie sont différents qu'en France. Erasmus, ça m'a donné de plus au niveau CV, au niveau expérience, au niveau référence. Je travaille sur la radicalisation par rapport à une. Je travaille sur l'engagement dans la radicalisation islamiste, le cas des Français et ceux de l'immigration de Grèce. Donc, niveau terrain, niveau empirique, niveau des références, ça me tient bien. Et d'autre côté, c'est toujours par rapport à mon statut d'étudiant tunisien. C'est toujours cette contradiction, cette relation d'équipe entre à venir à l'académie, niveau expérience, au niveau intégration, au niveau champagne français. Parlant aussi. Bon, pour moi, c'est toujours la mobilité, c'est une preuve. C'est une preuve. Parlant de la sociologie pratique, il y a la précarité financière qui influence ma situation académique. C'est pour conclure. Et merci beaucoup.
Alors, je vais répondre quand même rapidement. Là, c'est pareil, les deux blocs européens, non européens. Parmi les européens, par exemple, vous avez les Allemands, enfin, en fonction aussi de son origine sociale, de son origine de pays, en fonction de sa monnaie, etc., il va y avoir des différences. Moi, je pense à c'était très intéressant l'Angleterre, parce que l'Angleterre, il y a des Hall of Residence, donc c'est des CTU, mais sans être des CTU, parce que les CTU chez nous ne vont que les boursiers sur critères sociaux. Là-bas, tout le monde va en Hall of Residence, mais il y a des Hall of Residence, working class, middle class et upper class, quoi, je veux dire. Et suivant ta nationalité, on n'était pas dans les mêmes. Je veux dire, et suivant les moyens, parce que c'est pas comme la France où il y a un niveau, le prix d'une chambre, c'est la même un peu partout. Et donc, en fait, là, on voyait bien, en fonction de là où se retrouvait tel ou tel type d'étudiants internationaux, qu'il y avait des différences de moyens, évidemment. Mais c'est pareil, c'est difficile de faire un bloc non européen et un bloc européen, parce que même à l'intérieur des Européens, il y a des différences. Et on sait très bien qu'étudier en Angleterre, ça a un coût énorme. D'ailleurs, il y a moins dans mes parcours que des jeunes que j'ai rencontrés en bureaucratie, là, on va dire. Il y a les Grecs qui majoritairement vont en Angleterre. Moi, j'ai rencontré ceux qui étaient passés par la France pour des questions financières. Donc, qui avaient dit, bon, moi j'ai réfléchi, mais finalement, je vais étudier en France parce qu'en Angleterre, c'est pas possible, surtout que. Quand on n'est pas dans un. Parce que là, dans les bureaucrates, il y avait ceux qui étaient passés par les programmes et ceux qui avaient été en mobilité spontanée. En général, ils avaient tous un parcours de mobilité, mais la mobilité spontanée a un coût énorme aussi, il faut dire. Parce que là, l'avantage quand même d'Erasmus, c'est qu'on paye son inscription chez soi. Donc, alors que quand on est overseas student, par exemple, en Angleterre, alors là, on paye des frais d'inscription qui sont assez exorbitants. Et donc, on ne peut pas le faire si on n'est pas d'un milieu où, enfin, financièrement, il y a une possibilité d'avancer les frais, même si après, il y a des bourses, etc. Donc là aussi, il faut complexifier. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Bon, Erasmus Mundus, on reste sur Erasmus, mais effectivement, avec les pays. Donc là moi, je n'ai pas étudié la question. Donc je ne sais pas, même en termes de réciprocité, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'Européens qui vont au Maghreb, etc. Je pense qu'il doit y avoir, si peut-être que tu as les chiffres, mais il doit y avoir là aussi, à mon avis, un beau déséquilibre dans un pays. Je ne sais même pas d'ailleurs si le principe de réciprocité s'applique dans Erasmus Mundus.
Non.
Non, hein, c'est ça.
Il y a des étudiants espagnols, par exemple.
Ouais.
La langue arabe, ça existe.
Non, mais ça existe, bien sûr, hein, de toute façon, même la mobilité, par exemple, je pense aux pays de l'Est, parce que moi, à l'époque, en fait, il n'y avait pas tous ces pays de l'Est quand j'ai étudié, maintenant, il y a beaucoup de pays de l'Est qui sont rentrés. Là, je pense que là, le déséquilibre est plus important entre Est et Ouest que Sud et Nord maintenant. Hein, donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étudiants qui vont dans ces pays-là. Mais pour un Français aller en Roumanie ou pour un Roumain aller en France, effectivement, en termes de, après, possibilité de faire tel ou tel type d'expérience dans le pays en question, elle est différente. Hein. Moi, j'avais étudié, j'avais posé la question si tu avais voyagé, visité d'autres régions, d'autres pays quand ils étaient là. Et là, on voit bien les différences. Alors, les Anglais, par exemple, voyagent beaucoup. C'est corrélé avec leur origine sociale aussi. Donc, les voyages, ils sont dépendants aussi. On dit, voilà, ils sont dépendants des ressources financières des personnes. Donc, à l'expérience de je voyage, je visite toute l'Angleterre ou je visite toute l'Espagne, c'est pas la même en fonction de la où on vient, de l'origine et de la destination, quoi. Donc, effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a des différences à l'intérieur même du groupe Erasmus et des différences entre. Souvent, on a tendance à penser que les étudiants hors programme qui sont des pays tiers, des pays du Sud, sont moins favorisés que les moins favorisés, donc n'ont pas la même expérience que les Erasmus. Mais là aussi, moi, je nuancerai. Je pense qu'il y a vraiment. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Non, je vais. D'abord, une demande de précision sur les statistiques, oui. Notamment, quand tu dis, mon illusion de départ dans le cadre d'Erasmus, en dehors. Est-ce que c'est uniquement les universités sont comptabilisées ou c'est aussi à la fois
les grandes
écoles?
Voilà, c'est tout.
C'est tout, c'est l'ensemble.
C'est l'ensemble des inscrits dans l'enseignement supérieur.
D'accord.
C'est la tertiary education.
Et on n'a pas le décompte précis entre l'université d'un côté et grande école. Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus?
Ah oui.
Et c'est lesquelles?
C'est justement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que dans certaines business schools, bon, à l'IEP, c'est très clair, parce qu'il y a la proportion est beaucoup plus importante, et les business schools, les écoles d'ingénieurs, etc., c'est eux les plus mobiles.
Mais tu n'as pas le décompte cumulé de toutes les grandes écoles?
Non, ça pourrait se faire, c'est pas, je n'ai pas fait, mais ça pourrait se trouver. Je
comprends un peu quels sont les. Voilà, exactement les.
Mais il y a des filières universitaires où il y a 0,5% d'étudiants Erasmus, quoi. Donc c'est une moyenne. Et la moyenne, elle crée des disparités, évidemment. Hein,
il y a des questions un peu en marge pour savoir si tu avais des éléments là-dessus. Est-ce qu'on peut estimer aussi le nombre de gens qui sont dans une mobilité au sein de l'Union européenne en dehors des projets Erasmus? Est-ce qu'il y a des estimations là-dessus et c'est vraiment très, très limité, ou alors c'est un phénomène aussi, c'est-à-dire les Allemands qui vont tranquillement venir résider en France, et les jeunes ils s'inscrivent en France, ils existent aussi, on a eu quelques cas chez nous, ma sœur qui s'en souvient pas. Alors, et là aussi, est-ce qu'il y a des études socialement? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Si c'est un corpus hyper-élite ou bien. Voilà. C'est une deuxième question, c'est plutôt sur la question de la naissance à la jeunesse des politiques publiques, notamment d'Interview. Tu disais un truc très intéressant dans tes réponses, c'est l'individu qui est mis au centre de ces politiques. Hein. Donc, je voulais savoir sur cet aspect, est-ce qu'il y a eu des études? Quand on a su quelque chose, un peu vraiment d'analyse des politiques publiques classiques sur comment des élites européennes, de fonctionnaires, d'hommes politiques, etc., ont élaboré au départ cette politique Erasmus. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Et cette question de mettre au centre l'individu, effectivement, au lieu de penser collectivement des formations, etc., est-ce que sort de quelle boule, de quel type de référentiel d'action publique tel qu'il a été pensé à l'époque, au-delà de, effectivement, du truc symbolique de créer des citoyens européens, comme tu disais tout à l'heure.
Alors, je vais commencer par la mobilité européenne en Erasmus. Donc là, on rentre dans la mobilité spontanée, donc hors programme d'études. Alors, c'est toujours un peu compliqué le problème de la mobilité spontanée. Alors, surtout pour avoir une idée exhaustive, parce qu'ils vont rentrer dans la population des étudiants étrangers, mais la population même des étudiants étrangers, c'est un peu compliqué à savoir si vous êtes sur le sol français, mais vous êtes né en Italie et ou ailleurs, et vous êtes pas du tout en mobilité, ou alors si c'est une mobilité, la population des étrangers, c'est un peu compliqué. Donc en fait, il y a des chiffres sur la population des étudiants étrangers, mais est-ce que ce sont des étudiants vraiment en mobilité? Parce qu'on peut avoir été, moi je suis née, mais c'est pas vrai parce que je suis née en France, mais donc je sois née en Italie, mais j'ai fait tout mon cursus en France, donc du coup je suis dans les étrangers parce que j'ai la nationalité italienne, mais j'ai fait tout mon cursus en France, donc est-ce que je suis en mobilité, pas en mobilité, donc ça, il y a tout un débat là-dessus, enfin plus dans le détail, mais donc du coup c'est un peu difficile de savoir combien ils sont, qui ils sont, quoi, quelque part. On peut donner une idée sur la population étrangère, mais on ne sait pas si c'est vraiment une population en mobilité. Voilà. Donc ça, c'est vrai que les études là-dessus sont assez rares, quoi, parce que du fait de cette difficulté. Quoi. Alors après, sur la genèse des politiques publiques, donc oui, alors, comment a été conçu, c'est ça le... Alors déjà, voilà, en fait, quelque part, c'est né un peu il y avait le DAD, qui était un programme d'échange qui existait déjà entre la France et l'Allemagne. Et donc, c'est à partir de là qu'ils se sont dit, parce que bon, vous savez, l'axe franco-allemand, c'est à partir de là qu'ils se sont dit, pourquoi on n'élargit pas ça, ou ça c'est après la guerre, etc. Pourquoi on n'élargit pas ça à tous les autres pays européens, justement, pour favoriser cette mobilité qui finalement existe assez peu, notamment je pensais d'abord aux élites, d'abord parce que si l'objectif de 10%, on voit bien que c'est pas un objectif de démocratisation. C'est né de ce programme qui était déjà existant. Donc l'institutionnalisation, alors elle est intéressante parce que ça donne des critères de jonglette, parce que disait c'est rendre cette mobilité qui existe déjà, cette mobilité spontanée, la mobilité elle est pas née avec un rapus, hein, la mobilité spontanée a toujours existé. Mais la mobilité rapus, ça permet aussi de justement pouvoir suivre les individus, quoi, de pouvoir les comptabiliser, etc., ce qu'on n'avait pas avant dans d'autres types de mobilité. Mais c'était les ministres, parce que comme il y a un principe de subsidiarité, évidemment, c'est les ministres de l'éducation des pays qui se sont réunis à plusieurs occasions, notamment l'idée derrière, il y a quand même, Erasmus a été quand même mis au service du processus de Bologne aussi, l'harmonisation, c'est intéressant de mettre en parallèle toutes ces politiques au niveau de l'enseignement, c'est même toute la félicitation, disons, harmonisé au niveau européen, et ce programme qui a servi quelque part aussi à rapprocher en fait les universités. D'ailleurs, le LMD, ce qu'on appelle avec nous en Italie, ça a facilité, disons, ce travail d'harmonisation, quoi, le programme. Mais après, c'est vrai qu'il est. Moi, j'ai pas, à ma connaissance, ceux qui se sont, il y a le livre de Crochet sur le processus de Bologne, qui a fait une étude un peu plus sur l'action publique, sur comment s'est mis en place ce processus, comment il a été au départ mis en place plutôt par les ministres de l'éducation, puis récupéré par la Commission européenne, qui s'est fait un peu le chantre finalement de la liberté de la circulation des travailleurs, etc. Donc là, je trouve que c'est intéressant quand même de noter, parce que souvent on oublie un peu, que la liberté de circulation en Europe est une liberté qui est conditionnée. Parce que là, il y a eu récemment, par exemple, je pense à la Belgique, qui ont commencé à demander à des Italiens et des Espagnols de rentrer chez eux. Alors on s'est dit, mais comment ça se fait? La liberté de circulation n'existe pas. Non, en fait, il faut savoir que la liberté de circulation, elle est quand même conditionnée au fait d'avoir de ne pas peser sur la protection sociale, enfin sur les ressources en termes de protection sociale du pays en question. Donc si vous n'êtes pas en mesure de vous auto, ils vont mourir, etc. Et vous pouvez, le pays peut demander, il peut vous expulser. Et il y a eu des cas en Belgique, à l'époque où j'y étais, et encore aujourd'hui, il y a des syndicats qui se posent de la question, d'ailleurs, mais qui en fait, est, finalement, c'est sa liberté de circulation en Europe, elle est, que, elle est conditionnée. Hein, donc, et il y a encore un problème très important par rapport à ça. Ils réfléchissent aussi par rapport à ça, parce que si tant qu'il n'y a pas d'harmonisation des protections sociales en Europe, la liberté de circulation sera toujours conditionnée. Donc, il y a en fait cette volonté de la Commission européenne de faire circuler ces gens, mais pas forcément qu'ils s'établissent dans les endroits où ils vont faire leurs études. Quoi. Donc, surtout, si, dans certains États, surtout s'ils n'ont pas... L'Angleterre, en particulier, elle a basculé dans le Brexit, à mon avis. Hein. C'est une des réponses, c'est l'afflux d'Européens, notamment de pays d'Est, etc., qui ne voulaient pas accueillir pour différents motifs. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que cette question de la circulation en Europe, elle est assez intéressante. Et regarder les politiques publiques de ce côté-là aussi, ça pourrait être un axe très intéressant d'analyse. Hein.